Bon, Kertov, on va étudier un peu maintenant les lois qui concernent les jours qui viennent maintenant, les lois du jeûne du 17 Tammuz. Il est écrit dans le prophète Zacharie, Zacharia, le 4e jeûne, le 5e jeûne, le 7e jeûne, le 10e jeûne seront des jours de joie et de fête pour la maison de Yehuda, de Judas. C'est quoi le 4e, 5e, 7e et 10e? Le 4e, c'est le 4e mois de l'année, en comptant les mois, hein, comme le compte la Torah, depuis le mois de Nissan. Ça fait le mois de Tammuz, le jeûne qui a le mois de Tammuz. C'est le 17 Tammuz. Le 5e jeûne, celui du 5e mois, c'est le mois de Av, le jeûne de Tisha B'Av, du 9 Av. Le 7e mois, c'est Tishrei, c'est le jeûne qu'on fait le 3 Tishrei, le lendemain de Rosh Hashanah, Tzom Gedalia. Et le dixième, c'est le mois de Tevet, pardon, c'est oui, le mois de Tevet, le 10 Tevet. On jeûne parce que lors du premier temple, Nebuchadnezzar est venu et a mis le siège sur Jérusalem, ce 10 Tevet. Ces jeûnes-là, hein, sont des jeûnes aujourd'hui, mais Bezrat Hashem, quand le Mashiach viendra très bientôt, alors ils vont être transformés en jours de fête. Ces jeûnes, il y a encore un jeûne supplémentaire, mais il est un peu moins important. C'est celui de la veille de Pourim, le jeûne d'Esther, qui est en souvenir des malheurs qu'il y a eu. Donc la veille de Pourim, les Israël ont failli être tous anéantis. Esther, elle a jeûné, alors nous aussi, on jeûne. Durant les quatre jeûnes que j'ai cités du verset du prophète, il y a un qui est plus grave que les autres, c'est Tisha B'Av, qui lui dure 24 heures, un peu plus 25 heures, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles. Et trois autres jeûnes, donc 17 Tammuz, celui qui nous intéresse pour dans quelques jours, il commence à l'aube et il finit environ 20 minutes après le coucher. Ici en Israël, 20 minutes après la sortie des étoiles, enfin quand la nuit tombe, il faut voir combien c'est en France. Le jeûne du 9 Av, on va encore en parler, il est comme Kippour, on n'a pas le droit de se laver, pas le droit de mettre, à l'époque on mettait de l'huile, sans cuire de crème aujourd'hui, de porter des chaussures, on n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa femme, et bien sûr on doit jeûner, comme Yom Kippour. Les autres jeûnes, on peut faire tout cela, si c'est nécessaire. Pardon ?
Chaussures en cuir,
ouais. Les enfants de moins de 13 ans pour les hommes et moins de 12 ans pour les femmes, ne jeûnent pas durant ces trois jeûnes. Parlons maintenant des trois jeûnes. On va parler du 17 Tammuz, d'accord ? On va parler que du 17 Tammuz et le jeûne de Guédalia et le jeûne du 10 Tevet. Ces trois jeûnes à partir de Tisha B'Av. Donc, les petits-enfants de moins de 13 ou 12 ans pour les filles ne jeûnent pas. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui est malade ? Tous ceux qui sont malades, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle malade ? Quelqu'un qui est alité. C'est de la fièvre, c'est l'alité, tous les cas pareils. Alors, ils ne jeûnent pas. Même à Tisha B'Av, ils ne jeûnent pas. Que Kippour, c'est différent, mais ils sont complètement dispensés de ces jeûnes-là. De même, une femme qui est enceinte, ou une femme qui est en train d'allaiter, qui allaite vraiment, toutes ces femmes-là sont dispensées du jeûne du 17 Tammuz. Tisha B'Av, elles doivent jeûner, le 9 Av. 17 Tammuz, 3 Tishrei et 10 Tevet, elles sont dispensées.
Il y a des arrangements, mais il y a des façons de manger spéciales.
Ça, c'est à qui pour les façons de manger spéciales? Ça n'existe ni à Tisha B'Av, ni les autres jeûnes. Quand on peut manger, on peut manger. Et quand on ne peut pas manger, on ne peut pas manger. Quand on peut manger, on autorise à manger normalement, même des grandes quantités, simplement ce qui est nécessaire. On ne va pas dire que tu peux manger maintenant des bons gâteaux, te faire maintenant des brochettes sur le feu, d'accord? C'est un jour de jeûne. Alors tu peux manger ce qui est nécessaire pour la santé de l'embryon, etc. C'est qu'à Kippour, on va donner des quantités restreintes d'eau et de nourriture dans les cas où on peut faire ainsi. Quand on ne peut même pas faire ainsi, alors il n'y a aucune quantité. Mais tous les autres cas de jeûne, par exemple Kippour, si on peut manger, on peut manger. Si on ne mangera pas des chocolats et des brochettes, comme j'ai dit, on mangera ce qui est nécessaire. Donc maintenant, comme j'ai dit, une femme enceinte, elle ne jeûne pas. Elle peut manger tout ce qui est nécessaire de manger, comme je dis, pas du chocolat et des brochettes, mais tout ce qui est nécessaire durant ces trois jeûnes, le 17 Tammuz, le 3 Tishrei, donc le Tsom Gedalia, et le 10 Tevet.
Mais en fait, on a besoin de manger, c'est dangereux, c'est pas bon pour le bébé qu'elle a envie de quelque chose, il faut.
On va en parler aussi de ça. Bien sûr, c'est l'envie maintenant, tout à coup, une boulimie comme ça de brochette. Elle mange la brochette sans problème. J'ai dit ce qui est nécessaire pour la santé, d'accord. Une boulimie, on permet même à qui pour, dans certains cas, on autorise, d'accord. Une femme enceinte, elle a une boulimie tout à coup, une envie de quelque chose de très forte.
Si Tishabéa, il n'y a aucun moyen qu'une femme ne jeûne pas.
Il y a, maintenant, je ne vais pas mélanger les choses. Tishabéa, on verra avant Tishabéa. Maintenant, on parle que des trois jeûnes, d'accord. Donc le 17 Tammuz, le 3 Tishrei, donc Tzomé Gedalia, et Asar Betevet, le 10 Tevet. Alors, une femme enceinte ne jeûne pas. C'est quoi une femme enceinte? Il y en a qui disent qu'il faut qu'il y ait 3 mois qu'elle est enceinte. On peut tout à fait alléger la loi, dire du moins qu'on est certain qu'elle est enceinte, mais qu'on est certain, pas qu'elle a fait. Des fois, il y a des tests comme ça qui ne sont pas très fiables. Mais un test fiable, tel qu'une prise de sang, c'est bon, elle peut déjà ne plus jeûner. La femme qui allait, j'ai dit auparavant, une femme qui allait, tant qu'elle allait, c'est le psak, c'est la décision de la lacha de Rav Eslam Bachaoul. Une femme qui allait, mais de façon partielle, ça prend beaucoup de force, elle a besoin de liquide, elle a besoin de nourriture, donc il ne faut pas que son lait s'arrête, donc elle peut ne pas jeûner, elle peut manger. Mais il faut qu'elle jeûne, il faut qu'elle allait. Si elle a arrêté d'allaiter, alors elle doit recommencer à jeûner, elle doit continuer à jeûner. Ça, c'est le psak de Rav Eslam Bachaoul. Le Rav Eslam Bachaoul, il est très mekel là-dessus, il dit, se basant sur une Gemara, qui dit que lorsque la femme elle accouche, c'est tous ses membres s'éclatent, d'accord ? Éclate, c'est-à-dire mitparkim, se démonte, voilà. Tous ses organes se démontent, c'est marqué comme ça. Alors il dit, ça lui prend 2 ans de se remettre de l'accouchement, donc même si elle n'allait pas, étant donné qu'elle est une femme qui a accouché, pendant 2 ans, qu'elle allait ou pas, elle peut ne pas jeûner, elle peut manger. Alors, mais si on est plus marmire, il dit non, une femme qui allait, elle peut ne pas jeûner, si elle n'allait pas, que 30 jours après l'accouchement. Même divergence d'opinion pour une femme qui a fait une fausse couche. Une fausse couche, alors, d'après la convention à Bachaoul, c'est 30 jours, elle peut ne pas jeûner, après elle doit jeûner, d'après le Rav Yosef, c'est pendant 2 ans. Quelqu'un qui n'est pas alité, qui n'est pas malade, simplement, il a par exemple une grande migraine, ou bon, je ne sais pas, il a mal au ventre, il a mal aux pieds, mais il n'est pas alité, d'accord ? Alors il doit jeûner, à moins que s'il jeûne, ça va l'amener à être alité. D'accord, quelqu'un qui sait que s'il continue comme ça, il va mal finir, alors il n'est pas obligé de mal finir, à ce moment-là, il peut commencer à casser les jeûnes. S'il sent qu'il va devenir un état où il sera alité, il peut déjà boire, manger ce qui est nécessaire. Mais s'il a simplement une migraine, bon, ça fait mal à la tête, c'est difficile, il doit jeûner. Par contre, il peut prendre une pilule, comment on appelle ça en français, en hébreu, c'est un acamol, en français, un doliprane, mais sans eau. Il avale, gloups, comme ça, et ça va. Question qu'on me pose tous les matins de jeûne ici à l'Yeshiva, quand je vais réveiller les jeunes gens, est-ce qu'on peut se laver les dents? Non, on ne se lave pas les dents durant un jeûne, qu'en cas de nécessité. Quelqu'un, c'est très dur pour lui, il ne pas se rincer la bouche, pas se laver les dents. Chaque cas différent, un qui doit se rincer la bouche, mais il peut supporter de ne pas se laver les dents. Il ne peut même pas, il faut vraiment qu'il ait la brosse et qu'il ait aussi la pâte dentifrice. Si quelqu'un vraiment il souffre de cela, il peut, durant ces jeûnes-là, se laver les dents, faut très attention qu'il n'y ait aucune goutte qui rentre dans la gorge. Le jeûne de Tisha B'Av, c'est beaucoup plus grave. On n'autorise pas vraiment en cas de très très grande nécessité. Toute la journée, il va comme ça malheureux parce qu'il ne sait pas laver les dents. Ok, alors il peut se laver les dents. Et Kippour, tant pis, ben, mon cher ami, un jour par année, tu ne te laveras pas les dents. Le jour de Kippour en vaut la peine. Dès le soir du 17 Tammuz, ça veut dire samedi soir cette année-là, on a 3 semaines et 1 jour, qui finiront le dimanche soir, qui sont les 3 semaines de deuil pour la destruction du temple. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Pourquoi on jeûne? On jeûne pour 5 raisons. La raison principale, c'est que Bnei Israël ont fait le veau d'or, et donc les tables de la loi ont été brisées par Moshe Rabbeinu, première raison. Deuxième raison, à l'époque où il y avait ici l'occupation grecque, il y avait un rachat, un grand mécréant en grec, Apostomos, qui a brûlé la Torah. À cette époque-là aussi, on a mis une idole dans le sein, dans le temple. Aussi, à cette époque-là, il y a eu une xéra, un décret, on n'a pas pu continuer à amener le sacrifice quotidien. Et enfin, c'est à l'époque du deuxième temple où, le 17 Tammuz, la muraille de la ville a été démolie. 3 semaines plus tard, le temple a été détruit. 5 choses. Je rappelle pour qu'on sache bien pourquoi on jeûne. Il y a eu le veau d'or et les tables de la Torah ont été brisées. L'apostolos a mis une idole dans le temple, dans le saint. On a brûlé la Torah. Non, c'est l'apostolos qui a brûlé la Torah. On a mis une idole dans le temple. Le sacrifice quotidien a été interrompu et la muraille a été détruite. Le 9 av, on jeûne pour 5 choses aussi. Qu'est-ce que c'est le 9 av? Les deux temples ont été détruits. À l'époque, c'est en 135 de l'ère chrétienne, il y a eu une révolte des Juifs qui a été matée dans un massacre terrible. Il y avait une ville qui s'appelait Bétar, dans laquelle il y avait des centaines de milliers d'habitants qui ont tous été massacrés. C'est ce jour-là, le jour de Tisha B'Av. Tornosrophos, un grand mécréant qui a labouré tout le lieu du temple, comme est écrit dans les prophéties, que le lieu du temple sera labouré comme un champ. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé encore? Oui, du temps du désert, il y a eu les Meraglim, donc les explorateurs qui sont revenus, qui ont dit que la terre n'était pas bonne, et ils ont été punis de devoir mourir dans le désert et rester encore 40 ans dans le désert. Voici toutes choses qui ont lieu le 9 av. Il faut savoir pourquoi on jeûne et se dire que si on jeûne encore aujourd'hui, c'est parce que nos actions ne sont pas mieux que celles de nos ancêtres qui ont été punis de toutes ces choses-là, parce que quand un malheur arrive au peuple d'Israël, c'est nos actions qui ont amené cela, et donc on doit faire tchouva. Le but du jeûne, c'est pas maigrir, c'est pas pouvoir dormir l'après-midi parce qu'on est fatigué, c'est de faire un bilan personnel de notre comportement et de voir, de comprendre qu'on a des choses à améliorer. Preuve en est que le temple n'a pas encore été reconstruit, on est toujours en exil, et le peuple d'Israël souffre toujours, comme à l'époque, des choses qui ont lieu et qui ont provoqué, qui ont motivé ce jeûne. Alors, durant ces 3 semaines-là, on va aller de façon progressive. Il y a 3 étapes. Il y a depuis le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, le premier du mois de Av, du premier Av jusqu'à la semaine où commence Tisha B'Av, et la semaine où aura lieu Tisha B'Av. Et chaque période, on prend sur soi des choses qui sont beaucoup plus graves au niveau du deuil. Cette année, pour les Sfaradim, il n'y a aucune différence entre la deuxième et la troisième période. Parce que cette année, Tisha B'Av tombe un Shabbat, il est repoussé au dimanche. Donc il n'y a pas la semaine dans laquelle aura lieu Tisha B'Av. Si Tisha B'Av a lieu par exemple un jeudi, alors dès dimanche, lundi, mardi, mercredi, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Telles que se laver. Telles que... il y a certaines choses qui ont lieu la dernière semaine. Toutes ces choses-là n'auront pas lieu cette année, donc ce sera plus cool cette année. Les Ashkenazim, ils ont beaucoup de choses que nous faisons que la semaine, eux font depuis le Rosh Chodesh. Mais pour tous, en tout cas, il n'y a pas de loi de semaine dans laquelle a lieu Tisha B'Av, donc c'est beaucoup plus cool. Juste nos Khumra, les super Mahmerim, s'ils veulent, ils disent, vu que ça a lieu, ça a lieu en fait le Shabbat, Tisha B'Av, le Tisha B'Av, alors toutes les semaines d'avant, ils font comme si c'était la semaine. Mais c'est un avis qui est très Mahmer. La plupart des poskim me disent sans aucun problème, cette semaine on peut la considérer comme la semaine qui n'est pas avant Tisha B'Av et faire des lois qui sont seulement après Rosh Chodesh. À Shabbat, on mange complètement normalement. Shabbat, on fait tout normalement. Les Sfaradim, les Ashkenazim font un peu différemment. On va revenir maintenant à ce qui nous concerne, nous, le jeûne du 17 Av, du 17 Tammuz et la période qui va du 17 Tammuz jusqu'au premier du mois de Av, jusqu'à Rosh Chodesh Av. Qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose. L'Ashkenazim ne peut pas se marier, nous on peut se marier. La Sfaradim peut se marier jusqu'au premier du mois de Av. Après, on ne se marie plus, mais on peut faire un vort. C'est quoi le vort? Une officialisation d'une demande, d'accord? Parce qu'on a peur que quelqu'un vienne maintenant la prendre à notre place, donc on la prend, là, on a officialisé, c'est terminé, elle est pour nous et pas pour quelqu'un d'autre. Donc on permet ça même jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Mais on fera bien sûr sans musique, etc. etc. Depuis... Non seulement le jeûne du 17 Tammuz, mais la veille, ça veut dire dès samedi soir cette année, on n'a pas le droit d'écouter de musique jusqu'à la sortie de Tisha B'Av. Cette année, il y a certaines années, on continue jusqu'au 10, parce que Tisha B'Av, comme j'ai dit auparavant, c'est la date où les deux temples ont été détruits. Mais le feu a commencé le 9 av. L'essentiel de la destruction a lieu le 10 av. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui continuent encore le 10 av. Par exemple, même la musique, on doit attendre jusqu'au 10 av. Cette année où le jeûne est repoussé du 9 au 10, parce que le 9 c'est un jour de Shabbat, donc dès la sortie de Tisha B'Av, on peut faire tout ce qu'on veut, la vie est belle, vivez les vacances. Pardon ?
On dit que c'est le 10 vraiment qui a été détruit.
Oui.
C'est pas neuf, mais
Ah, c'est parce qu'en fait, après le début de la chose, après, c'est qu'une conséquence. D'accord. Quand ça commence à brûler, c'est déjà mort. Bon, pour finir, c'est vraiment mort, le 10, d'accord. Le temple est encore un peu existant, le 9, et pour finir, complètement démoli le 10. Mais ça, la sanction, c'était vraiment irréversible, c'était le 9.
Qui a brûlé
le temple ? Les Romains, le deuxième temple, et les Assyriens, le premier temple.
Là, on fait le.
Les deux temples sont détruits la même date.
Par
brûlure. Ils sont détruits et brûlés. Ah ouais. Intéressant de voir, c'est une date qui est très mauvaise. Il y a aussi l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'était un 9 av aussi. La Première Guerre mondiale, c'est un 9 av. C'est des dates très. Bon. Alors, Tachem lui transforma ces dates de deuil en dates de fête. Alors, deux questions là, oui, Aaron.
On
ne
peut pas écouter de musique, mais on a le droit d'écouter, par exemple, des hymnes sans instrument. Ou Shirachirim.
Alors, on a le droit jusqu'à, comme c'est la Rabbeinu Shlomo Achour dit comme ça, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, on a le droit de chanter. Et ça, il dit jusqu'à Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, il dit c'est bien même d'arrêter de chanter, même d'étudier en chantant, il faut essayer d'éviter. Attends, il y a les radios ici religieuses qui peuvent pas rester 3 semaines sans musique, alors elles mettent des personnes qui chantent. C'est pas génial. C'est border, d'accord, un pis-aller. Il y en a qui autorisent, il y en a qui disent que non, bon, mais... Maintenant, normalement, c'est bien de ne pas écouter du tout de musique, même la musique qui est chantée. Quelqu'un qui est en situation de déprimé, il peut écouter de la musique jusqu'à Rosh Chodesh Av. Quelqu'un qui est psychiatriquement atteint, d'accord, qui prend vraiment un état grave, alors il peut écouter même le jour de 9 Av, il peut écouter de la musique, parce que lui, il a besoin de ça pour... C'est déjà de la... Il a une thérapie, ce n'est pas une question de joie. Donc, première chose qui va nous conseiller durant ces 3 semaines-là, donc pas écouter de musique. Deuxième chose, on ne fait pas la bracha shehiyanu. La bracha shehiyanu, c'est on bénit Dieu, shehiyanu qui nous a fait vivre, vikimanu qui nous a fait exister, vikimanu nous fait arriver, lasmanazé à ce moment. On ne peut pas remercier Dieu qu'on arrive à ce moment qui est un moment de malheur pour le peuple d'Israël. Donc, on évite de faire la bracha shehiyanu sur des nouveaux habits, sur des nouveaux fruits. Dans les cas nécessaires, par exemple, quelqu'un qui se marie, on a vu que nous, sur Radim, on se marie jusqu'au Rosh Chodesh Av, alors quand on se marie avec une femme, on fait la bracha shehiyanu, on ne fait pas sur elle, on prend un talit, on fait la bracha sur un nouveau talit, on rentre quitte la femme. Alors, quelqu'un qui se marie dans cette époque-là pourra faire shehiyanu. Quelqu'un qui a un enfant, la brit mila, il fait shehiyanu. Pidyon haben, il fait shehiyanu. Dans tous les cas où c'est nécessaire de faire shehiyanu, on les fait. Dans le cas, c'est facultatif. Je peux ne pas mettre un nouvel habit maintenant. Je peux ne pas manger un nouveau fruit maintenant. Dans tous ces cas-là, on repoussera jusqu'après les 3 semaines. Si c'est un fruit qu'on ne pourra pas avoir après les 3 semaines, ou il va se gâter, ou il va disparaître du marché, on ne pourra pas l'avoir. Alors, si possible, on le met au frigo ou au congélateur jusqu'après les 3 semaines. Si ça ne tiendra pas non plus comme ça, alors on le laisse pour Shabbat. Et Shabbat, on pourra le manger en faisant la bracha shehiyanu. Celui qui se marie, on a dit qu'on pouvait se marier au Sfaradim jusqu'au premier Av, on pourra faire un mariage avec de la musique, évidemment, avec un instrument, et faire Shehiyanu, comme j'ai dit auparavant. Ce sera la seule exception, on pourra avoir de la musique pour, dans cette période-là, que s'il y a un mariage. Pour l'abro d'Abraham de Shehiyanu, une femme qui a tout à coup, une femme enceinte qui a tout à coup une boulimie, une envie terrible de manger des fraises, par exemple, elle n'a pas encore, maintenant c'est la saison des abricots, d'accord. Et elle doit faire shehiyanu, alors on l'autorise, parce que c'est grave, une femme enceinte qui a une envie, c'est-à-dire que le bébé a besoin de cela, l'embryon a besoin de cela, donc on l'autorise à manger l'abricot, elle fera la bracha shehiyanu dessus. Idem, un enfant qui ne sait pas encore c'est quoi le deuil du temple, il a tout d'un coup envie d'un abricot, on peut donner l'abricot, on essaie de faire aussi la bracha shehiyanu. Idem, un malade maintenant, que pour sa santé, c'est bien qu'il mange des abricots ou tout autre fruit, pour lequel on doit faire shehiyanu, ou qu'il pourra faire la bracha shehiyanu durant cette période. Une personne qui apprend à jouer de la musique, du piano, de la guitare, de la flûte, durant les 3 semaines, il doit arrêter. Dans certains cas, par exemple, dans la période du Homer, le conte du Homer, on n'écoute pas de musique jusqu'à l'Akbar Homer, mais ceux qui font ça, pas pour le plaisir, mais pour apprendre, ils ont le droit. Là, les 3 semaines, c'est plus grave, c'est donc 3 semaines de deuil. On n'a pas le droit de jouer, même en tant qu'entraînement pour apprendre à jouer. Encore 2 points et on finit le cours. Il est permis d'aller à la mer, d'aller à la piscine durant ces 3 semaines. Il est interdit de se laver durant la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, mais comme j'ai dit, cette année, il n'y a pas. Donc on peut aller durant les trois semaines tranquille, à la piscine, à la mer, aucun problème. Est-ce que les Nazim, eux, depuis Rosh Chodesh Av, ne se lavent pas ?
Ils ne se lavent pas.
Dans les cas où il y a beaucoup de transpiration, il fait très chaud, etc., oui. Mais normalement, pas. Nous, on se lave, pardon ?
C'est en hiver.
Oui, c'est vrai. Mais ça dépend. Les Ashkenazim, ils habitaient dans la région assez nordique, c'est pas trop, pas comme si à Bnei Brak. Il faut comprendre que dans ces trois semaines de deuil, les Ashkenazim ont des lois beaucoup, beaucoup plus sévères que les Sfaradim. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup plus souffert durant l'exil. C'est incomparable les souffrances qu'il y a eu entre le monde ashkénaze et sfarade. Les ashkénazes ont beaucoup plus souffert. Je ne sais pas que les sfarades pas souffert, ils ont souffert aussi beaucoup. Les ashkénazes, beaucoup plus. Il y a eu les croisades, il y a eu beaucoup les pastoureaux, il y a eu les cosaques, tout avec l'empire chrétien qui était une grande haine, d'accord, du peuple d'Israël. C'est vrai que les grands rabbins de chaque époque ont rajouté à la Gemara. Dans la Gemara, il n'y a pas grand-chose, d'accord ? C'est des choses qu'on a rajoutées après, durant les époques, pour que le peuple d'Israël fasse tshuva et prie à Dieu que cet exil s'arrête et que le temple soit reconstruit. Donc, pour accentuer notre regret que le temple est détruit, qui a provoqué l'exil. Donc, on peut aller à la mer, on peut aller à la piscine durant toute cette période-là. Les gens te posent des questions, est-ce qu'on peut déménager sans aucun problème ? Est-ce qu'on peut voyager sans aucun problème ? Toutes ces choses-là sont permises. Dès que le mois de Av rentre, il faut ne plus être en joie. D'accord ? Mais ça n'empêche pas qu'on peut déménager et qu'on peut aussi voyager, on peut aussi à la mer. C'est permis. C'est vrai qu'il faut tâcher de ne pas se mettre trop en danger, parce que c'est une période qui est difficile pour le peuple d'Israël, mais au moins ça reste permis. Il y en a qui ont dit qu'on peut aller après le 17 Tammuz à la mer ou à la piscine, ça en a déjà été avant cette année. C'est faux. C'est pas basé sur aucune chose pratique, du moins pour les Sfaradim. Mais si on n'a pas été à la mer cette année, on veut décider d'y aller maintenant la veille de Tisha B'Av. Cette année, hein, je parle cette année où on n'a pas la semaine dans laquelle a lieu Tisha B'Av, on peut y aller aussi ainsi. Oui, une question ?
Si on a le coutume de ne pas aller pendant la semaine ni à la mer, ni éviter de voyager, prendre le bateau par exemple.
Oui.
On continue à suivre notre coutume ?
C'est une coutume qui n'est pas écrite dans les poskim, je ne sais pas d'où elle vient. Si on a fait trois fois ainsi, alors ça devient un éder. C'est même fait, on l'a fait une fois, on agit ainsi, en pensant qu'on continuerait, ça devient un éder de Rabbanan. Alors, si on veut, ça vaut la peine de faire une interdiction d'arim, de faire une annulation des vœux. Comme ça, quand on aura besoin, on pourra le faire. On pourra continuer, mais on le fait blinéder. Comme ça, on peut continuer à faire ces coutumes-là, et qui, je répète, ne sont pas nécessaires. Comme ça, en cas où on sera obligé d'arrêter de cette coutume-là, on ne sera pas dans le cas grave de quelqu'un qui transgresse un éder, qui transgresse un vœu. Dernière chose. Durant ces trois semaines, Rabbi Noari, la Kabbalah, dévoile que durant ces trois semaines, il est très bien, non seulement de faire Tikkun Chassod comme on doit faire chaque nuit. Je vous rappelle qu'il y a une très grande histoire de pleurer la destruction du temple la nuit entre minuit et l'aube, minuit juif et l'aube. C'est très important de faire cela. Les hommes font cela, se disent un texte. Cette année, en Israël, on lit que Tikkun Léa. Il y a deux Tikkunim, Tikkun Léa et Tikkun Rachel. À l'étranger, ils font les deux, mais en Israël, on fait que Tikkun Léa. C'est certains textes différents. Donc ça, c'est clair que c'est la période la meilleure pour le faire, les périodes de destruction du temple, ces trois semaines-là. Mais non seulement au milieu de la nuit, aussi au milieu du jour. Après le midi juif, midi aujourd'hui, c'est à midi 42 en Israël. Donc après midi 42, il est bien de s'asseoir par terre et de pleurer la destruction du temple. C'est dur pour nous de pleurer, essayez, en lisant le texte de Tikkun Rachel. Bien que nous, ici en Israël, durant l'année de Shemitah, on ne lit pas Tikkun Rachel, néanmoins, durant la journée, durant ces trois semaines, c'est bien, vous prenez un... Il ne faut pas s'asseoir à même le sol, on met un coussin, on met une couverture, quelque chose, et on lit Tikkun Rachel durant ces trois semaines-là. Le texte qui est dans le Sidour, au début du Sidour, marqué Tikkun Rachel, vous voyez, ça prend exactement 5 minutes, comme ça, on pleure et on marque le coup que le temple est détruit, qu'on inscrit Bert Hashem, que Dieu le reconstruira très prochainement de nos jours. Amen. Baruch Adonai, Amen.